finissant par monter gratuitement.
Donc on va commencer notre deuxième cours, Bezrat Hashem, sur le chapitre 4, qui est un chapitre très important qui va nous permettre de comprendre les midot, les attributs à Kadosh Baruch Hu. Déjà, pour faire un petit rappel de la semaine dernière, dans le cours de la semaine dernière, on a appris un très grand chidouche. On a appris qu'en vérité, Dieu, par définition, est bon, et que Dieu a envie de donner sans chercher de raison pourquoi il doit donner. Ça, c'est la volonté initiale de la Kadosh Baruch Hu. Rappelez-vous le terme qu'on a utilisé, qui est un terme du Midrash, du Zohar, Teva Hatov Le'etiv, la nature du bien pour faire le bien. Ça veut dire que Dieu, avant de rendre service à quelqu'un, avant de nous donner ce qu'on a besoin, il ne réfléchit pas pourquoi je dois donner. Il donne. Alors dans ce cas-là, David, il a posé une question. Toute la semaine, elle a taraudé cette question à David. Mmh. Et dans ce cas-là, puisque de toute façon Dieu y donne, à quoi je travaille? C'est comme si tu me dis que tu vas au boulot, que tu vas pas au boulot, tu recevras la paye.
Ah, je veux pas.
Alors si de toute façon je reçois la paye, parce que le patron, ça lui fait plaisir, il a envie de donner, d'accord? Je dis, bah si ça lui fait plaisir de donner, alors je veux pas travailler. C'est une bonne question. C'est là qu'arrive le bouclier du soleil. De base, t'as un soleil qui veut donner. T'as l'énergie, Dieu, il veut donner. Mais Hachem, il dit, si je lui donne, et que lui, de son côté, il n'apprécie pas ce que je lui donne, parce qu'il n'a pas travaillé pour l'avoir, donc c'est pas pour son bien. Des fois, tu crois faire rendre service à quelqu'un, mais tu lui rends pas service. Ça nous arrive avec nos enfants, ça nous arrive dans beaucoup de choses de la vie, que des fois, tu crois que tu rends service à quelqu'un, en lui disant, bon, c'est pas grave, laisse tranquille, ne fais pas ses devoirs, etc. Mais en vérité, tu ne le rends pas service. Et donc, le Kadosh Baruch Hu, il veut nous donner. Matnat Rinam. Il veut nous donner Matnat, un cadeau Rinam, c'est vrai Rinam, gratuit. Hachem, il veut nous donner gratuit. Parce que Hachem, il n'attend rien en retour, il n'a pas besoin.
Alors qu'il nous donne, et après, seulement, il envoie le bouclier.
Non, justement, le problème, c'est qu'Hachem, il dit si je vais te donner, et que tu vas recevoir. Moi, je t'ai déjà donné. Seulement, qu'est-ce qu'il fait Hachem? Il fait, si vous voulez, je sais pas comment, on donne un exemple. C'est comme si vous avez un père qui va dire à son fils, il va lui dire, je t'ai donné 1 million d'euros. Alors, où ils sont dans un compte en banque, qui a ton nom. Mais j'arrive, il me faut le code. Ah, t'as pas encore le code. Pour avoir le code, il faut galérer. Tu te dis, mais à quoi ça sert? Pourquoi tu l'as mis dans un compte en banque? Puisque de toutes les façons, il peut pas accéder à cet argent. Alors, qu'est-ce qu'on va te répondre? On va te dire, parce que c'est pas que le père, il a dit à son fils, fais ce que tu dois faire, après je te donnerai une récompense d'1 million d'euros. Moi, le million, je l'ai déjà donné. Parce que j'ai envie de te donner 1 million d'euros. C'est mon fils. Voilà un grand chiffre, maintenant. D'accord? J'ai envie de te donner ça. C'est mon fils, je vais te donner ça. Seulement, comme je veux que, pour ton bien, je veux que tu sentes que tu l'as mérité, donc l'argent que moi, je t'ai déjà donné, parce que j'avais envie de te donner, et que j'ai besoin d'aucune raison, cet argent que moi, je t'ai donné, pour ton bien, je vais le conditionner par quelque chose. Je vais le conditionner par une bonne note, je vais le conditionner par une bonne conduite, etc. Mais moi, je l'ai déjà donné. C'est très important à comprendre ça. C'est-à-dire qu'on n'a pas deux attributs distincts à Kadosh Baruch Hu. Vous savez, surtout dans les cultures, dans d'autres religions, l'Avdil, ils ont beaucoup tendance à dépeindre deux niveaux. Ça, je n'ai pas parlé la semaine dernière, je ne voulais pas entrer dedans. Mais ils vont toujours dire, il y a le bon Dieu, et c'est pour ça qu'ils disent le bon Dieu, il y a le bon Dieu, et il y a le bon Dieu. Ils disent pas comme ça, mais tu vas comprendre qu'il y a le bon et le mauvais. Viens t'apprendre la chassidoute et te dis, il n'y a pas de bon et de mauvais. De base, Dieu y donne. C'est comme le soleil. Seulement, qu'est-ce qui se passe? Il y a un deuxième élément qui vient se superposer sur ce don d'Akadosh Baruch Hu, bonsoir. D'accord? Qui est une rigueur. Mais la rigueur, elle vient pas toute seule. C'est pas qu'Hachem dit, tu sais quoi? Il y a le côté qui est bon et le côté qui est rigoureux. Et le côté qui est rigoureux est vraiment rigoureux et le côté qui est bon est vraiment bon. Tu dis non! Il n'y a pas de côté. Il y a un côté. Il y a un seul conduit. C'est qu'il donne. Seulement, quand il donne, des fois il donne et tu le reçois directement comme du bon. Des fois il donne. Et il te met un barrage au milieu sur ce qu'il t'a déjà donné pour ton bien, pour que tu apprécies ce qu'il t'a donné. Donc ça change complètement notre façon de voir les choses. C'est-à-dire, on ne voit pas Hachem comme d'un côté un bon père et d'un autre côté comme un bourreau avec un bâton. Non. Hachem t'a déjà donné le cadeau. Seulement, il faut voir comment tu vas le recevoir. Ça, c'est ce qu'on a expliqué la semaine dernière, on a rajouté encore quelques points aujourd'hui. Alors, il dit, maintenant, il pose une question. C'est une question très intéressante, parce qu'en vérité, plusieurs ont touché à cette question la semaine dernière. Est-ce qu'un être humain est capable de comprendre ça? L'idée de donner sans rien attendre en retour. L'idée de donner, d'avoir envie de donner, comme ça.
Il y a deux idées que je ne comprends pas. Un, sans retour.
sans aucun retour. Ce n'est pas un retour, c'est qui. C'est
quoi l'intérêt?
Aucun.
Comme un enfant.
Non.
Pourquoi
un enfant? Non. Un enfant, il y a un retour. Il y a un retour personnel déjà, parce que c'est plaisir d'avoir, c'est ton enfant.
Oui.
Donc il y a toujours un intérêt. Et deux, vas-y.
Et deux, Magen, pourquoi? Alma, ça veut dire que même si tu me dis, même si demain matin, je prends un coup de tête, c'est top merde.
Le Magen, le bouclier, et c'est pour te protéger du cadeau qu'il t'a donné, pour ne pas que le cadeau qu'il t'a donné te fasse mal. Parce que s'il vient de façon qu'il n'est pas préparé, que tu le reçois gratuitement, ce cadeau va te faire mal, mais pas bien pour toi.
J'ai besoin de recevoir des épreuves.
J'ai pas parlé d'épreuves. Le bouclier, c'est pas forcément une épreuve. Le bouclier, si tu veux, c'est ce qui va.
Dans le conduit, il n'y a rien de mal.
Non, le bouclier, c'est pas. Comment te dire? Le bouclier, c'est pas une épreuve. Le bouclier, c'est un frein.
Oui, d'accord, ok, mais.
C'est un frein qui t'empêche de recevoir la bénédiction divine. Pas qui t'empêche, qui filtre. Si tu veux, de base, c'est mieux d'avoir une grande lumière. Après, il te met un mur avec une porte.
Et la grande lumière, c'est les événements de ma vie. Tu parles des événements.
Bien sûr, les événements.
Dans les événements de ma vie,
oui.
Il y a dans le passé, il y a eu des choses qui se sont très bien passées,
mm-hmm.
et des choses qui ont été un peu plus difficiles.
Dans le cas, tu sens qu'il y avait un bouclier, il y avait quelque chose à transpercer.
Il y avait une bûche.
Très bien.
Alors, pourquoi j'ai besoin de prendre la bûche, moi?
Parce que certainement que ces choses-là, Hachem, il a senti que si on va te donner directement, sans passer par ce qu'il faut, après on n'est pas dans le calcul d'Hachem, mais peut-être que ça n'aurait pas été assez apprécié. Pour ton bien. Mm-hmm. Après, on n'est pas les comptables. Mais on n'est pas les comptables d'Hachem. Ça, c'est une idée générale. Quoi?
Je suis pas seul à apprécier ce qui est bien, ce qui n'est pas bien.
Non, un cadeau qui n'est pas mérité.
D'autant plus que le cadeau, il le conditionne à. Il me dit, je te donne un cadeau, mais je mets un bouclier.
Non, c'est pas ça. Vous avez raison que pour moi, qui est l'utilisateur final, je ne vois pas le cadeau. Je dois le mériter, je ne vois pas ça en tant que cadeau. Mais il faut rentrer dans la dynamique, dans la logique de base. Ça veut dire que de base, Hachem t'a donné. C'est pas qu'Hachem dit, je vous donne rien, et tant que vous aurez pas, vous travaillerez pas, vous recevrez rien. Hachem, il t'a déjà donné, il t'a déjà payé. Seulement, pour ton bien, il te dit, je vais freiner ce que je t'ai déjà donné, pour que tu apprécies ce que je t'ai donné. Mais en vérité, il a envie de donner. Seulement, s'il donne sans compter, ça marche pas. C'est la parachute de cette semaine. Cette semaine, on parle de. Bon, après, on refait la parenthèse, on va repartir sur le cours. Mais dans la parachute de cette semaine, on voit Avraham Avinu. Avraham Avinu, il a eu un premier enfant qui s'appelle Ishmael. D'accord? Et il a eu, bon, ça s'est passé comme ça s'est passé, il a eu un deuxième enfant qui s'appelle Yitzhak. Yitzhak aussi, il va avoir deux enfants. Il va avoir un enfant qui s'appelle Yaakov et un autre enfant qui s'appelle Esav. Et à chaque fois, bon, j'ai pas envie de dire 50% de raté, parce que je ne fais pas de problème. Mais à chaque fois, ça veut dire que, n'oublions pas que c'est des patriarches. Qui ont tout mis. Qu'est-ce que vous croyez? Vous croyez qu'Abraham, il a commencé l'éducation, il a dit celui-là sera un raté? C'est évidemment, c'est pas chou de conant. Et on va en parler. Ça veut dire qu'il a continué son éducation. Alors quoi? Quelle était l'erreur? Alors, si on peut appeler ça une erreur, parce que c'est pas une erreur, c'est un parcours. Quelle était quelle était la faille, quelle était l'erreur? C'est qu'Abraham Avinu, il était chesed. Que chesed? Que la bonté. Abraham Avinu, c'est pas dire non. Et quand dans l'éducation, tu sais pas dire, tu fais que dire oui, pour donner pour le bien, eh ben, des fois ça marche, des fois ça marche pas. Yitzhak, ça va être le contraire. Yitzhak, il va être très rigoureux. Quand t'es très rigoureux avec les enfants, ben, des fois ça marche, des fois ça marche pas. Ouais. Yaakov, il a réussi à, mais c'est pas simple. Il a réussi à être entre les deux. Donc c'est exactement ce qu'on est en train de nous dire ici. Donc, Akadosh Baruch Hu, donc on va essayer de répondre aux deux questions. Akadosh Baruch Hu, il veut donner, et il donne. Seulement, après il met un frein. Le même Dieu qui a donné, il met un frein pour ton bien. Sur ce qu'il a donné. Pas sur ce qu'il veut donner, sur ce qu'il a donné. Et c'est pour ça que l'idée du soleil est très profonde. Parce que dans l'idée du soleil, le soleil commence déjà à éclairer. C'est pas que t'as un petit soleil et un grand soleil. Non, c'est le même soleil. Le soleil commence déjà à éclairer, mais après on te met un bouclier pour t'aider à bénéficier de ce soleil qu'on t'a déjà donné. C'est-à-dire que là, le Morazakim veut nous montrer que l'idée que David Ameler, il dit quand il compare à Kadosh Baruch Hu, Hachem Elohim au soleil et au bouclier, c'est une idée très profonde. C'est une idée très profonde pour te montrer qu'il n'y a pas deux dieux ici, il y a un dieu. Et que ce dieu, il est bon. Seulement, comme on a expliqué, des fois, il faut mettre un frein. Alors, on va aller dans les mots. Veine. Page 50, l'étude du 14 Sivan. Veine. Kemo, Shemidazoi, Shifroche, Kadosh Baruch Hu, Levado. De la même façon que cette Mida. Ce trait de caractère, ça veut dire la grandeur de vouloir donner sans compter, c'est la louange de Dieu uniquement. Shum nivra, livro yeshmaïn ou la chayoto. puisqu'il n'est dans la possibilité d'aucune créature de créer une existence de néant et lui donner la vie. Vegam midazo, il est mal à maskalat que la brume va s'agatam. Est-ce que je peux comprendre comment j'ai été créé? Est-ce que je peux comprendre, monsieur Benita, comment j'ai été créé?
Ça veut dire quoi, comprendre le but?
Non, comment j'ai été créé? Le processus de ma création. Il y a une très belle phrase.
Biologiquement ou...
Physiquement, biologiquement, spirituellement, moléculement, ce que tu veux. Oui.
Par, d'accord. Oui. Par la relation.
Non, ça c'est d'accord, j'ai compris.
C'est quoi alors? Qu'est-ce
là, monsieur Benita, ouais, là, moi je veux pas le comment, je veux le pourquoi du comment. Comment ça fonctionne? Comment ça a fonctionné? Alors il dit comme ça. Il y a une très belle phrase, je crois que c'est de Rabbi Moshe Mikinon qui disait comme ça. Ilou yedativ, Michel, vous êtes avec nous?
Bien sûr.
Il dit Ilou yedativ, haïtiv. Si je connaissais Dieu, je serais Dieu.
Merci.
Je répète encore. Si je connaissais Dieu, je serais Dieu.
Alors il n'y a que Dieu qui peut se connaître.
Mais bien sûr. Parce qu'une chose que je peux comprendre, c'est une chose que je maîtrise. Donc si je maîtrise, c'est que je peux le devenir. D'une façon ou d'une autre. Je maîtrise le processus. On est d'accord? Par exemple, donne-moi du papier. Tu me dis, comment on a fait pour imprimer ce livre? Je te dis, c'est pas compliqué. On a pris du bois, on a fait du papier, etc. Parce que j'ai imprimé. Donc, je suis capable de reproduire ça. Donc, comme j'ai compris comment elle a fait, je peux le reproduire. Maintenant, imaginez qu'on me sort un produit que j'ai aucune idée comment ça a été fait. Comme je n'ai pas compris comment il a été fait, je peux jamais le reproduire. Donc, si on avait compris comment on avait été fait, on aurait pu être comme Akadosh Baruch Hu. Or, on n'est pas comme Akadosh Baruch Hu, une seconde. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas comprendre comment on a été créé. Ça nous dépasse complètement. Et donc, le but, quel est l'objectif ici de la Gemara Zaken? C'est de t'expliquer que la grandeur d'Akadosh Baruch Hu n'est pas sondable. Dieu est grand, 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 au point que tu ne peux même pas y dire. Alors, regardez, juste ici, il y a un développement qui est relativement long, qui va durer sur une page et demie. D'accord? Donc, une page et demie, c'est quelques paragraphes. Mais on va aller jusqu'au bout du raisonnement, après je vais l'expliquer. Juste, on va aller point par point. Où il veut nous amener le Morazaken? Il dit, regarde. Aucune créature, de même façon que personne ne peut créer ex nihilo. Est-ce que moi je peux créer ex nihilo?
Impossible, il faut de la matière.
D'accord? Donc, je ne peux pas créer ex nihilo. Donc, si je ne peux pas créer ex nihilo, je ne peux pas comprendre comment se passe la création ex nihilo.
Bien sûr.
Je peux m'imaginer.
Mais je peux reproduire.
Non.
Et même le vide, c'est pas la force de matière.
Si. Oui, non, pas du tout. Mais même le clone. C'est quoi un clone? C'est qu'on va utiliser un procédé qui marche par de cellules qui est mis en place par un Kadosh Baruch Hu.
Reproduire.
Mais je ne comprends pas comment ça fonctionne.
Oui, d'accord.
Tu ne comprends pas comment ça fonctionne. C'est pas possible. Monsieur Benita, dans votre compte en banque.
Oui.
D'accord. Quand vous mettez 100 euros, le lendemain vous revenez, combien vous retrouvez?
100.
100. D'accord. Si vous trouvez un nouveau bébé qui se reproduit et qui grandit et qui grandit et qui grandit, il y a un problème. D'où il sort? Vous mettez 100 euros et vous dire ça s'appelle un compte d'épargne, j'ai même dit. Pourquoi pas?
Souvent il y a moins. Hein,
mais il y a un problème à un moment. Ça va pas se reproduire à l'infini.
Non mais la banque prend des.
Imagine, tu mets 100 euros, après ça se, tu laisses le compte, il tombe tout seul, il se reproduit à l'infini.
Ce que je veux dire par là.
Mais il y a un problème.
Bon, étant donné que ça a été créé ex nihilo, on ne sait pas exactement comment c'est. Par contre, on est capable aujourd'hui de cloner des gens et de reproduire à l'infini.
Mais c'est quoi cloner? Ça vous êtes capable d'utiliser un processus que Hachem a mis en place et d'essayer de le manipuler.
Bah, peu importe.
Oui. Mais de la même façon que je peux manipuler la traction terrestre, que je peux manipuler.
Comme on fait aussi les robots avec l'intelligence artificielle.
Oui, mais c'est rien, ça.
Pareil. Bon, mais on se rapproche
juste, je vous ai dit, je vous ai demandé de ne pas m'interrompre parce qu'il faut qu'on arrive jusqu'à la fin du raisonnement. Non, c'est pas pour moi, c'est pour le raisonnement. Shen Kor Besechel Shum Nivra, la skill ou la sig midazov yechotel ibro yeshmein ou la chayoto. Donc évidemment, puisque personne de nous peut créer, donc personne de nous peut comprendre comment se passe la création ex nihilo. C'est juste quelqu'un pour ouvrir, c'est quelqu'un qui a sonné. Qui a bria yeshmein, idabar shel malam bisechel anivraim. Car la création ex nihilo est au-delà de l'intellect des êtres créés, qui him midak doulato shel akadosh baruch hu, car elle vient de la mida, de la tribu, de la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. V'Akadosh Baruch Hu midotav ardut pashut. Or, Dieu et ses attributs font une unité parfaite. Il est évident que sur Akadosh, je veux également yichad. Donc, shem shem biyichol el shum sechen ivra lastik baruch hu, kachen yichol lastik midotav. De la même façon que je ne peux pas comprendre, je vais expliquer tout de suite, vous inquiétez pas, c'est pas du charabia ce qu'on est en train de dire ici. C'est très profond. De la même façon que personne ne peut comprendre son créateur, il ne peut pas comprendre les attributs de son créateur. De la même façon qu'aucun être créé peut comprendre la grandeur d'Hachem qui est sa possibilité de créer ex nihilo, Kedirtiv olam chesedibane, car mamash en biyicholto la simidat gvurato shel hakadosh baruch hu. De la même façon, personne ne peut comprendre la gvura d'hakadosh baruch hu, chez imidat et simtsu minet pashut achemik du lato, qui est la tribu de la contraction et de la retenue du flux de vitalité secondaire. Bon, là il faut qu'on explique parce que là on met beaucoup de termes qui sont pas simples du tout. On va prendre l'exemple d'un être humain. Il y a un être humain qui peut s'appeler Mandy, qui peut s'appeler Jacques, qui peut s'appeler Georges, qui peut s'appeler qui tu veux. Et cet être humain, il peut avoir des traits de caractère. D'accord ? Par exemple, Mandy peut être bon, Mandy peut être rigoureux. Maintenant, j'ai une question à vous poser. Quand une personne a un trait de caractère, écoutez bien la question que je vais vous poser. Est-ce que le trait de caractère définit la personne ?
Oui.
Attendez, réfléchissez. Bonsoir. D'accord.
Non, ça fait partie de la personne.
Je vais la enfermer aussi, non.
Dessus, on va réfléchir ensemble. Non, mais dites pas. Celui qui pense, c'est qui pense. Il n'y a pas de problème, on discute. Ce Cohen dit oui.
Un trait de caractère, ça va influencer, ça va faire. Mais c'est pas tout le temps.
Est-ce que le trait de caractère, c'est moi ?
C'est une partie de soi.
C'est pas moi, c'est une partie de moi.
Ouais.
On est d'accord ?
C'est une composante.
C'est une composante. La preuve, c'est qu'on dit bien en français, on dit il y a moi, et moi j'ai un trait de caractère. Maintenant, on peut avoir plusieurs traits de caractère. Un trait de caractère comme ci, un trait de caractère comme ça. Ça veut dire que chez l'homme, on est capable de dissocier l'essence de la personne, l'essence de l'être humain, et ses traits de caractère.
C'est la même chose.
Seconde, non, c'est pas la même chose. C'est vrai que dans la vie de tous les jours, c'est l'être humain qui utilise ses traits de caractère, mais en vérité, tu peux dissocier. C'est-à-dire, je peux dire il y a Mandy. Il y a les traits de caractère de Mandy. C'est vrai que Mandy est indissociable de ses traits de caractère, mais mon trait de caractère, c'est pas moi. Je sais pas si vous voulez, je vais en arriver.
Non.
Ce que je veux dire par là, c'est que je ne suis pas forcément défini par mon trait de caractère. C'est très important de dire ça. Par exemple, imaginez une personne qui a un défaut. Par exemple, il est nerveux. On dit celui-là, il est nerveux. C'est un problème de parler comme ça. Parce que quand tu dis il est nerveux, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tu l'as défini comme quelqu'un de nerveux. Donc, deux secondes, tu l'as défini. Donc, ça veut dire que quand je m'imagine cette personne, c'est quoi ? C'est un nerveux. Non, c'est pas un nerveux. C'est un être humain qui a un trait de caractère de nervosité. Il a d'autres traits de caractère qui sont peut-être plus positifs. Et même la nervosité, ça peut être dans le bien, ça peut être dans le mal. Donc, il a un trait de caractère de nervosité. On fait très attention à ça dans la Torah. De ne jamais dire il est nerveux. Il est bon. Il est pas bon. C'est un être humain qui a un trait de caractère. C'est-à-dire que chez l'être humain, on dit ceci. La preuve, c'est quoi ? C'est qu'avec le temps, on peut acquérir des traits de caractère.
Ouais, on peut dominer.
Ou on peut perdre des traits de caractère. Tu as des enfants qui naissent avec un bon trait de caractère qui le perdent. Parce qu'ils ne sont pas dans un bon entourage. Ouais. Ou qui acquièrent au contraire, qui vont acquérir des bons traits de caractère parce qu'ils sont dans un bon entourage. Donc ça veut dire quoi ? Qu'est-ce que ça prouve ça ? Ça prouve que le trait de caractère, c'est pas moi. Il y a moi, qui est mon être, qui est depuis le jour de ma naissance jusqu'à 120 ans. Et après, tu as un trait de caractère
qui peut
se développer.
Qui est modulable.
Alors, c'est comme un vêtement, en vérité. Alors, c'est un peu plus qu'un vêtement, parce qu'un vêtement, tu peux l'enlever. Mais pareil, un trait de caractère aussi. C'est-à-dire, tu peux maintenant être dans une situation où tu es plutôt bon. Après, tu peux être dans un autre état d'esprit où tu es plutôt moins bon, où tu es plutôt rigoureux. Donc, c'est un état d'esprit. C'est un vêtement. C'est comme un vêtement. Chez l'être humain, on est capable de dissocier. Maintenant, la grande question, c'est est-ce que chez Akadosh Baruch Hu on peut dissocier ? Est-ce qu'on peut dire il y a Hachem, il y a la bonté d'Hachem ?
Je sais pas, je sais pas, je peux pas le savoir.
Donc, écoutez bien ce que je veux dire.
C'est pas...
Ah oui, parce que tu me dis qu'on a été créé à l'image d'Hachem. Donc chez nous, on voit clairement et on se connaît nous-mêmes. La preuve, c'est que tu vois bien que tu peux être dans un certain état d'esprit au boulot, et après tu rentres à la maison, t'es dans un autre état d'esprit. Et après ta femme elle dit un truc, t'es dans un autre état d'esprit. Et après t'es avec un enfant, t'es avec un autre état d'esprit. Donc ça veut dire quoi ? Tu dis mais qui suis-je ? Moi, c'est qui moi ? Qu'est-ce que je te réponds ? Je veux dire moi je suis ni ça. Moi c'est moi. Mais non, je ne suis pas un ensemble. Moi c'est moi. Non, moi c'est moi. Mais non, justement, je ne suis pas un ensemble d'eux. C'est pas moi.
C'est la paranoïa.
Non ?
On peut être caractéré comme ça dans le travail.
Mon caractère, c'est pas moi. Mon caractère, c'est, si vous voulez, la façon comment j'exprime mon moi. Mais je peux changer de caractère. Je peux apprendre à dominer mon caractère. Donc c'est pas moi. Donc ça veut dire que chez l'être humain, on est bien capable de différencier. D'ailleurs, je dis bien l'être humain parce que, par exemple, chez un animal, c'est plus compliqué. Parce que c'est l'instinct. Et l'instinct, c'est très très difficile à dissocier l'instinct d'une personne. Alors que le trait de caractère, on peut dissocier. La preuve, c'est que justement, je peux avoir un trait de caractère comme ci, et 5 minutes après, un autre trait de caractère. Et c'est la même personne qui va parler avec une personne d'une façon, et après, tchic, on ne sait pas d'où il est sorti, il s'est modifié. Donc ça, c'est ce qui prouve, comme s'expliquait longuement Chassidout, que l'homme et son trait de caractère, c'est pas la même chose. D'accord ? Et c'est une grande aide, ça aussi, dans l'éducation, quand on éduque les enfants, etc., de pas dire « il est comme ça ». Quand tu dis « il est », c'est-à-dire tu l'as catégorisé et tu l'as défini comme ça. On ne définit pas quelqu'un. Tu ne définis pas, tu dis…
C'est l'enfermé.
Tu dis, voilà, exactement, tu le renfermes. Tu dis « il a pris ce comportement ». Il a un comportement qui est positif, il a un comportement, on dit « comportement ». C'est un problème comportemental, c'est un problème sentimental, c'est un sentiment. On a un bon sentiment, un mauvais sentiment. Je reviens à ma question. Est-ce que par rapport à Kadosh Baruch on peut dire la même chose?
Pas du tout.
Réponse, ce que donne la Chassidou, elle dit pas du tout. Elle dit à Kadosh Baruch Hu, on ne peut pas dissocier, l'essence d'un Kadosh Baruch Hu et ses traits de caractère. Si on peut appeler ça les traits de caractère. Donc, deux secondes, donc.
C'est l'expression.
Regardez où je veux en arriver. De la même façon que Dieu lui-même, est-ce que je peux le comprendre?
Non.
Donc si je peux pas comprendre Dieu, je peux pas comprendre en plus son expression, ses traits de caractère. Ça veut dire, moi j'ai envie de dire, j'ai envie de comprendre la bonté d'Hachem. Je lui dis, mais non, tu peux pas la comprendre. Pourquoi? Parce que tu peux comprendre la bonté d'un être humain, sans comprendre l'être humain lui-même. Parce que la bonté de l'être humain, la bonté de M. Charles et M. Charles, c'est deux personnes différentes. M. Charles, je sais pas ce que vous avez dans le cœur. Mais votre bonté, je peux la sonder, parce que c'est quelque chose que je peux dissocier de votre personne. Je peux dire, M. Charles, je le connais pas, je sais pas ce qu'il a dans les tripes, mais sa bonté, elle est en moi, je peux l'expliquer. Mais chez Akadosh Baruch Hu, c'est pas comme ça. On peut pas dissocier l'essence d'Hachem et ses traits de caractère. Donc, de la même façon que Hachem lui-même est insondable, de la même façon, ses traits de caractère sont insondables. Donc, je ne peux pas comprendre la grandeur d'Hachem. Je ne peux pas comprendre le chesed d'Hachem. Maintenant, voilà où vous nous amenez la de Morazakan. Écoutez bien le raisonnement. Il te dit, de la même façon que tu ne peux pas comprendre Hachem lui-même, tu ne peux pas comprendre ses traits de caractère. Ses traits de caractère, c'est quoi? D'abord, premier trait de caractère, c'est la bonté d'Hachem. Tu ne peux pas comprendre sa bonté. Mais tu ne peux pas comprendre aussi sa rigueur. C'est les gens, ils disent, ah, j'ai compris. Hachem, il est là, il s'est contracté comme ci, il s'est contracté comme ça. L'Admor HaZaken, il te dit, tu peux rien comprendre quand il s'agit d'Hachem. Pourquoi? T'aurais pu dire, mais ça va, je comprends pas l'essence d'Hachem, mais je peux comprendre son expression. C'est rien, c'est l'expression. Une expression de bonté, une expression de rigueur. L'expression, je peux comprendre, c'est devant mes yeux. Oui. Il te dit non. Parce que chez Akadosh Baruch Hu, l'expression et l'essence sont la même chose. On peut pas les dissocier. Donc, de la même façon que tu comprends pas Hachem, tu comprends pas sa bonté. Et tu comprends pas non plus sa rigueur. Tu comprends rien du tout. On comprend pas.
Alors, toi, j'ai marqué connais-le dans toutes ses voies.
Connais-le dans toutes ses voies, ça veut dire que toi, tu dois essayer à comprendre.
Puisque finalement, tu te dis qu'on ne pourra pas comprendre.
Non. Tu pourras pas saisir. Tu pourras pas saisir comment ça fonctionne. Tu pourras, bien sûr, tu pourras pas saisir.
Dans ses voies. Parce qu'il
est. Donc.
Est-ce que c'est pas là où c'est caché aussi que dans le schéma, il y a Hachem
et donc, si, donc, en fait, si vous voulez, l'Admor HaZaken est un peu en train de dire ce que Michael a dit tout à l'heure. C'est-à-dire, Michael, finalement, quel est le fond de sa question? C'est que tu as posé deux questions, mais les deux questions vont dans le même sens. C'est qu'on a du mal à comprendre, d'un côté, la bonté d'Hachem, qui a envie de donner sans compter, sans raison. On a du mal à comprendre ça. Comment il n'y a aucun intérêt? C'est pas possible. On n'est pas conçu pour comprendre. Chez nous, il y a toujours un tout petit intérêt, toujours quelque chose. C'est pas possible. Et aussi, on a du mal à comprendre comment Hachem se contracte et pourquoi il se contracte. Et c'est ça ta question. D'accord? Pourquoi on a du mal à comprendre? C'est justement ce que dit la Morza Kaim. Il dit, parce que si tu comprenais comment ça fonctionnait, tu serais toi-même Dieu. Parce que Dieu et ses traits de caractère sont indissociables. Donc si tu comprenais comment fonctionne la bonté ou la rigueur d'Akadosh Baruch Hu, tu aurais été toi Dieu. Or, tu peux pas être Dieu.
Alors, pourquoi on ne nous enseigne pas une seule chose? Puisqu'on ne peut pas comprendre qui est Dieu, la seule chose qu'on peut comprendre, c'est simplement ce qu'il nous a demandé de faire, il est 113 mitzvot.
Oui.
On prend le Shulchan Aruch.
Oui, je comprends. Mais
au final, si je comprends bien le Shulchan Aruch, c'est le code de la route de cette vie.
Oui, mais je comprends. Mais ce qui dérange, en fait, la Admor HaZaken ici veut résoudre.
Pourquoi tout ça, en fait?
J'ai compris la question. On se prend la tête. La Admor HaZaken ici peut résoudre une équation qui dérange le monde entier, en vérité. C'est qu'on a du mal à définir Dieu, on a du mal à comprendre qui est Dieu, à quel point il s'implique dans notre vie. Est-ce qu'il s'implique ou il s'implique pas? Est-ce qu'il attend quelque chose de moi ou il attend pas quelque chose de moi? Et s'il veut me donner, pourquoi il attend que je fasse un effort? Et qu'est-ce que cet effort va changer en lui? C'est des vraies questions qu'on se pose. Donc il y a des gens qui se posent pas de questions, qui disent, moi, quand je me prends pas la tête, s'il a un truc à me dire, il a qu'à me le dire, tant qu'il m'a pas parlé, je fais ma vie et c'est tout. Là, c'est un gars, il réfléchit comme ça.
Ah ouais.
Oui? Un gars, il dit, que si je me prends la tête maintenant à me demander qu'est-ce que Dieu y pense, il a quelque chose à me dire, qu'il veut me le dire. Oui. Je crois en lui, j'ai pas de problème, il existe, je suis d'accord avec lui, il existe, mais qui veut me parler, il me parle. Je peux me prendre la tête à comprendre ses chemins. La Torah te dit non. T'auras dit, c'est une mitzvah de comprendre les chemins d'Akadosh Baruch Hu, au maximum que tu peux.
Mais
il y en a comprendre. Mais, non, c'est pas qu'il y en a à comprendre. Seconde. C'est que, il faut essayer de comprendre au maximum tes possibilités. Et là, on comprend un petit peu déjà. On comprend un petit peu. On comprend que ça nous dépasse, mais on comprend un petit peu. On comprend déjà cette idée de base qu'Akadosh Baruch Hu veut donner. Il veut donner à Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il est gentil. Il est pas méchant. C'est pas un employeur, Akadosh Baruch Hu. Kadosh Baruch Hu, c'est un papa gentil qui veut donner. Il veut te donner. Seulement, des fois, il est limité. Maintenant, il te dit, est-ce qu'on peut comprendre parfaitement? Non, on ne comprend pas parfaitement. On ne comprend pas. Est-ce qu'on peut comprendre comment Hachem il donne, et pourquoi il donne, et pourquoi il retient? On a du mal à comprendre. Bien sûr que, grosso modo, on peut comprendre, on peut dire la vie, etc. Mais après, dès que tu rentres dans les complexités, tu as des questions complexes, tu ne réponds pas à la question. Donc, si tu ne réponds pas, c'est que tu n'as pas compris. Tu vas? Bon, on va avancer un petit peu dans les mots. Est-ce qu'il y a des questions? Monsieur Benita, il avait des questions certainement.
Non, on continue.
C'est une notion qui...
Attendez, mon but, c'est pas juste de balancer des phrases. Mon but, c'est que vous compreniez. Si on n'a pas compris, on répète.
Mais il n'y a rien à comprendre.
On a compris le parallèle par rapport à l'homme.
Non, deux secondes. C'est pas dire rien à comprendre. Le but du cours, c'est pas qu'on dise rien à comprendre.
Non, il y a à admettre certaines choses.
C'est de comprendre, deux secondes, Michael. C'est de comprendre qu'est-ce qui nous dépasse et pourquoi ça nous dépasse.
Mais il nous dépasse.
Non, une seconde. Je vais donner un exemple. Être par exemple dans un cours de maths ou de philo, d'accord, ce que tu veux. Être présent dans un cours et t'as un exercice que t'as pas compris, de dire j'ai pas compris parce que j'ai pas envie de comprendre, c'est une chose. Mais de dire j'ai essayé de comprendre et j'ai compris que ça me dépasse. C'est pas Stam, j'ai pas compris. Tout le monde peut ne pas comprendre, mais un gamin il a pas compris. Un bébé, il n'a pas compris. C'est facile, ça. Là, l'objectif de Morozakhen, c'est de t'expliquer pourquoi tu ne peux pas comprendre. Et c'est ce qu'il explique. Tu dis, parce que Akadosh Baruch Hu est indissociable avec ses mitotes. Et de la même façon que Akadosh Baruch Hu, tu ne peux pas le comprendre, donc tu ne peux pas comprendre ce caractère. C'est tout. C'est pour ça qu'il y en a qui comparent Dieu, je n'en dis pas l'avdi, mais à leur femme. Et de la même façon, je ne la comprends pas. Alors je comprends pas ce trait de caractère. Vous connaissez pas la blague, Monsieur Benita?
Non, mais ça.
Monsieur Benita, est-ce que vous connaissez la blague? Une fois, il y a un juif qui se comporte bien. Il se comporte bien. Peut-être vous la connaissez déjà, mais bon. Je vous dis, à votre âge, c'est difficile de vous surprendre. D'accord. Vous êtes jeune, mais.
Pas encore.
Une fois, il y a quelqu'un qui se comporte bien. C'est une blague, hein. Alors Dieu il vient le voir dans le rêve. Il dit, bon, tu t'es bien comporté, etc. J'ai envie de te faire plaisir. Je vais te donner un cadeau. Qu'est-ce que tu veux comme cadeau? Alors, il lui dit, moi j'habite ici, et j'aimerais, il habite à Miami, et il dit, j'aimerais une autoroute qui va de Miami à Jérusalem, parce que j'ai acheté un cabriolet, et c'est mon rêve d'avoir une autoroute qui va de Miami à Jérusalem. Hachem lui dit, c'est compliqué. Tu comprends, il y a les océans, etc., et des milliers de kilomètres, c'est compliqué, que je veux une autoroute. Alors, il dit, bon, alors si tu peux pas faire l'autoroute, alors je te demande autre chose. Je te demande une bénédiction que je puisse comprendre le chemin de ma femme. Je puisse comprendre ce qu'elle veut. Hachem lui dit, l'autoroute, combien de voies? 4 ou 5 voies?
C'est une histoire vraie, ça.
Hein?
C'est une dédicace pour...
Merci. Voilà, non, mais c'est une blague, évidemment. Mais c'est pour dire que...
Mais ça se rapproche de la réalité. Hein.
Que quoi?
La blague?
Je ne peux pas rentrer à la maison, ça. Je fais attention.
Vous allez rentrer chez vous, enfin, vous dire qu'est-ce que t'as reçu sur Angour? Ne lui répétez pas la blague.
Non.
En tout cas, pas que la blague.
Non, vous lui dites, c'est bien.
Ah, vous allez mettre sur mon dos.
Mais là, il me dit, voilà comment il est à Kadosh Baruch Hu. Tu ne peux pas le comprendre. Alors, si je ne peux pas le comprendre, alors ça y est, je...
Bon, maintenant, oui, je comprends, mais la question est comme ça, c'est est-ce que Dieu se cache vraiment?
Oui.
Non, c'est attendre, réfléchissez à la question.
Je vais chercher.
Parce que tu me dis que Dieu, en vérité, il a envie de donner et qu'il donne. Mais est-ce qu'il se cache vraiment, ou est-ce qu'il me donne l'impression qu'il se cache? C'est une question qui dérange beaucoup la Mourad Zakhan, tout le Tania, ça.
Pourquoi?
Est-ce que, c'est une question qui dérange tous les penseurs juifs. C'est sur ça qu'il y avait aussi une grande discussion avec le gamin de Vilna. D'accord? Une des bases de pile Baal Shem Tov déjà, c'est, nous ici sur Terre, on voit pas Dieu. Mais est-ce que Dieu se cache vraiment, ou est-ce qu'on a l'impression qu'il se cache?
C'est une impression.
Mais dans les cours précédents, on a dit que Dieu était là, Et il est parmi nous.
Alors, je vais vous expliquer, parce qu'il faut, il faut comprendre le chidouche. Il y a une approche, par exemple, c'est l'approche du Gaon de Vilna, l'approche d'autres aussi, qui vous disent que Dieu ne se cache pas vraiment. Il fait semblant qu'il se cache, mais il ne se cache pas. Dieu ne se cache pas. C'est une approche qui est antique, dit que dans le langage de la Kabbalah, ça s'appelle Tzimtzum Eno Kipshuto. C'est-à-dire que la contraction n'est pas au courant dans le sens littéral. La Morazaken, et bien après aussi les élèves du Gaon de Vilna étaient d'accord avec ça, parce qu'il y a eu des grands débats dessus. D'accord. Après, c'est intéressant, on pourrait faire un cours dessus, parce qu'il y a beaucoup d'angles qui a coulé. Le Morazaken, etc., et beaucoup d'autres, pas Hashem Tov, ils disent non. Ils disent Tzimtzum Kipshuto. La contraction de Dieu est au sens littéral, c'est-à-dire que Dieu se cache vraiment. Sauf que, si tu dis que Dieu se cache vraiment, je suis très embêté. Parce que j'ai du mal à comprendre, est-ce que Dieu est présent sur Terre ou il n'est pas présent sur Terre. C'est ça le fond du problème. La bonté de Dieu, c'est Hachem qui éclaire, le soleil qui éclaire, qui dit je suis là. La contraction, c'est je dis, j'éclaire plus. Donc si j'éclaire plus, je suis plus là. Alors je suis là ou je suis pas là.
Enfin, il dit.
Alors il y a ceux qui veulent solutionner, qu'est-ce qu'ils disent? Ils te disent non, il te fait croire qu'il se cache, mais en vérité il se cache pas. En vérité il est là. Mais tu crois qu'il est pas là, mais en vérité il est là.
Non, il se cache.
La chassidoute te dit non. La chassidoute te dit le chesed d'Hachem est vrai. Donc le don d'Hachem est vrai. Et la gvura d'Hachem, la contraction d'Hachem est aussi authentique. Les deux sont authentiques. Les deux sont authentiques. Et pourtant, Dieu est partout. Il y avait un grand débat, justement, entre... le débat était comme ça. C'était, est-ce que Dieu se trouve de la même façon dans une poubelle que dans une synagogue?
C'est une évidence, sinon c'est pas
Dieu. Réfléchissez.
Non, il n'y a pas à réfléchir. Tu as dit que...
Quand je dis une poubelle, je ne vais même pas vous dire une poubelle.
Ouais,
une église.
Et alors, c'est pas grave. Tu as dit que la création, ça n'avait rien changé à Kadosh Baruch Hu.
Je comprends, mais le problème.
Et tu as dit que chaque goutte de choses qui sont présentes que nous voyons, c'est une goutte d'énergie.
Mais le problème, c'est que tu es devant un élément qui est en opposition avec Hachem.
J'ai compris, même nos cousins, ils sont en opposition.
Alors, si c'est en opposition avec Hachem, qui vivifie cette chose?
Dieu.
Mais comment ça marche? Comment ça fonctionne?
Dans le chapitre 21 du Tanya, tu as dit c'est Dieu.
Parce que moi, quand je suis devant quelqu'un, quand je me cache. Donc je peux pas me cacher et être là. C'est pas possible.
Oui.
Et c'est pour ça que l'Admor HaZaken est dérangé par cette question.
Il se cache pas, il met un voile.
C'est le fond de la question.
Qu'il y a derrière,
Alors retenez ce terme. Dans le langage, on va pas trop développer dessus, mais dans le langage de la Kabbalah, on appelle ce terme le Tzimtzum, la contraction. C'est une très grande question. Depuis Rabbi Moshe Cordovero, déjà, c'est une grande question depuis le Harizal. Est-ce que le Tzimtzum est Kipshuto? Est-ce que la contraction d'Hachem est à comprendre au sens littéral? Ou est-ce que c'est une illusion? Peut-être c'est une illusion. Peut-être qu'en vérité, Dieu ne s'est jamais contracté, mais nous, on croit que c'est contracté.
C'est-à-dire que si vous le comparez...
Parce que c'est très important, qu'est-ce que ça change? Le chesed d'Hachem, il est vrai. Le cadeau d'Hachem, il est vrai. Maintenant, la contraction d'Hachem, est-ce qu'elle est vraie ou est-ce qu'elle est illusoire? Mais ça change tout. Ça change. Je veux savoir dans quel monde je vis. Est-ce que la gvura d'Hachem est authentique ou pas? Il y en a qui, comme je dis, qui solutionnent le problème, qui disent la bonté est authentique et la gvura, la rigueur, c'est une illusion. Le Morazakan dit non. Les deux sont vrais. Alors comment ça marche? Pas possible. Comment tu peux comprendre que quelqu'un il est à 100% là et il est à 100% pas là? C'est pas possible. C'est pour ça que le Morazakan te dit, de la même façon que tu peux pas comprendre l'essence d'Hachem, tu peux pas comprendre non plus son expression. Comment d'un côté tu sens qu'il est là, d'un côté tu sens qu'il est pas là. Très puissant comme explication ça. C'est pour ça qu'il y a toute une sira du rabbi qui explique ce chapitre, le chidouche. Le chidouche de ce chapitre, le chapitre 4, parce qu'après on va rajouter après avec le chapitre 5. C'est cette idée que on veut comprendre quel est le ressenti d'une créature. Est-ce qu'une créature ressent une sorte d'autonomie? Est-ce que je sens que je suis autonome? Une personne peut sentir qu'il est autonome. D'où vient ce sentiment d'autonomie? Il y a des milliards de gens dans la planète qui ne croient pas en Dieu, qui disent qu'ils ne croient pas en Dieu. Donc, c'est des gens qui sont autonomes. Donc, d'où vient cette autonomie? Tu ne peux pas être autonome avec quelque chose qui t'a créé. Tu peux pas être autonome, par exemple. Cette lumière ne peut pas se sentir autonome par rapport à la source de courant qui lui donne. C'est pas possible. Il y a bien une source. Donc, comment on peut se sentir autonome? D'où vient cette autonomie? Donc il y a encore une fois ceux qui veulent solutionner le problème. Je comprends. Mais c'est un sentiment d'autonomie. Les gens ils te disent, moi je crois pas en Dieu, j'ai jamais vu Dieu. Alors quoi, bombé, mec, bombé.
Continue, dis. Pourquoi pas?
Il continue de vivre en fait.
Comment ça marche? Alors, il y en a qui vont te dire, en vérité Dieu il est là mais il s'est caché. Il s'est caché mais il croit que tu crois qu'il s'est caché mais il s'est pas caché. Rassure-toi, te dis non, Dieu il s'est caché, mais il est toujours là. Alors quoi, je suis autonome ou je suis pas autonome? Réponds-moi à ma question. Est-ce que je suis autonome? Est-ce que je fais ce que je veux ici?
La perception qu'on a, c'est...
Ouais, je vais poser une question à la monsieur Benita. Je savais qu'elle allait vous marquer cette question.
Oui, puisque il nous a doté du libre arbitre.
Oui, mais au final,
donc ça veut dire que j'ai le droit.
Oui, j'ai compris. Mais au final, quel dernier mot ici? Est-ce que je fais ce que je veux ici?
C'est la question qu'on t'a posée il y a 3 semaines.
Est-ce que je fais ce que je veux?
Non, on est limité.
C'est l'impression qu'on a, bien sûr.
Ah bon, alors encore une fois, on revient aux deux approches, les deux mêmes approches. T'en as qui vont dire, au final, tu fais pas ce que tu veux. Au final, Dieu ne s'est pas vraiment contracté. Il te fait croire que tu fais ce que tu veux, mais c'est lui le patron. Et c'est un grand problème de dire ça. Parce que dans ce cas-là, j'ai pas vraiment de libre-arbitre, je sais pas de libre-arbitre. Donc tout c'est bon.
On est les pions, carrément.
Donc il faut dire que j'ai une autonomie complète.
Mais en réalité,
c'est ce qu'a dit M. Benita. Bien sûr. Est-ce que je suis autonome?
Il n'y a pas besoin de se poser la question, parce que c'est marqué dans la Torah. Tu choisis cette voie, tu reçois. Tu choisis cette voie, tu reçois.
Je comprends, mais qui a le dernier mot ici? Est-ce que j'ai le droit de décider? J'ai un patron. Le patron me donne des consignes. Est-ce que j'ai le choix de ne pas les accepter? Et de prendre le gainum? Ça, c'est mon problème.
Mais oui. Moi, j'ai du mal.
Est-ce que je suis autonome?
Tu as un patron, tu as un salarié, tu as le choix d'écouter et de rester dans l'entreprise, tu as le choix d'écouter et de prendre.
Est-ce que je peux changer le. C'est la question aussi que pose le rabbi. Est-ce que je peux changer le cours des choses, écoute bien la question, tel que Hachem l'a prévu?
Non.
Ah. Non. Donc ça veut dire que Dieu ne s'est pas vraiment contracté.
Mais ça,
si, parce que si c'est vraiment contracté au point qu'on ne sent plus sa présence, donc dans ce cas-là, je fais ce que je veux.
Je voulais comprendre cette notion.
Justement, et là,
il y a deux histoires prévues.
Et non, justement, c'est là, on va arriver à l'approche de la chassidoute qui te dit que Dieu se contracte vraiment et qu'on peut arriver à une vraie autonomie qui n'empêche pas que d'un autre côté, c'est Dieu qui crée tout à chaque seconde. Mais on peut arriver à une vraie autonomie, une autonomie qui permet de la récompense, une autonomie qui permet la punition et une autonomie qui permet même, et je pèse mes mots, de changer le cours des choses prévues par Akadosh Baruch Hu qui connaît le passé, le présent et le futur. Moi, je peux changer maintenant. Je peux changer ce que Dieu a prévu. Je suis Dieu alors.
Si, donc on rejoint la question de tout à l'heure.
Donc vous comprenez
la réponse de la question.
C'est ça la puissance de la question. Ça veut dire que c'est trop facile de dire la bonté de Dieu est authentique et la contraction c'est une illusion. Ça c'est très facile. Dire Dieu il donne, après il fait croire qu'il se cache, mais en vérité il est toujours là, en vérité il gère tout. Ça c'est facile. Si tu dis que Dieu il gère tout et qu'il n'y a aucune autonomie, c'est plus facile.
Cette notion.
Mais la chassidoute te dit c'est faux. Rassoulou te dit non. Elle te dit de la même façon que la bonté de Dieu est authentique, la contraction de Dieu, le voile de Dieu est aussi à 100% authentique. Donc il y a une vraie autonomie ici. Authentique. Une vraie autonomie. Alors je dis, mais s'il y a une vraie autonomie, alors dans ce cas-là, qui me fait vivre? Et c'est pour ça que le Razaken est obligé de t'expliquer. Il te dit que tu ne comprends pas ce paradoxe, mais sache que c'est ma mâche la réalité. Que tu as, Hachem te donne une autonomie. C'est-à-dire que, dites-vous, quand vous allez rentrer chez vous ce soir, quand vous allez avoir cette semaine, etc., dites-vous, je peux changer. Moi, si je me rappelle quand j'avais étudié la première fois cette idée quand j'étais à l'Yeshiva, ça m'avait beaucoup marqué. Cette idée que je peux changer le cours des choses prévues par un Kadosh Baruch Hu. Parce que, avant d'arrêter ta question. Il y en a qui veulent dire comme ça. Que Dieu est un peu comme un magicien. Quoi, un magicien, hein? Un magicien, il te dit, dans 5 minutes, il va se passer quelque chose. Moi, je vais l'écrire sur un papier. Je mets le papier dans la boîte. Je ferme la boîte. Et moi, je sais ce qui va se passer en 5 minutes. Et dans 5 minutes, toi, tu ne sais pas que moi, je sais. Dans 5 minutes, toi, tu vas décider ce que tu vas décider. Et moi, je vais ouvrir la boîte. Et qu'est-ce qu'on verra dans la boîte?
Ce
que j'avais écrit, ce qui allait se passer. Donc, Dieu savait le futur.
Oui.
Il y a beaucoup de gens qui pensent comme ça, d'accord?
Oui, mais c'est vrai.
Sauf que le rabbi pose une question sur ça. Il dit, si tu dis que Dieu, il sait ce qui va se passer, donc je suis conditionné parce que Dieu sait. Parce que imagine-toi que Dieu sait que dans 5 minutes, je vais faire une faute.
Et que moi, j'ai décidé autrement.
Donc ça veut dire que dans 5 minutes, je suis obligé de faire la faute, parce que Dieu le sait. Alors vous allez répondre, oui, mais Dieu le sait, mais moi je ne sais pas ce qu'il sait. Oui, mais puisque Dieu sait que je vais le faire, donc je suis obligé de faire ce qu'il sait que je vais faire.
C'est pas le fait qu'il sait qui détermine ce que je vais faire.
Donc je suis bloqué.
Je peux changer.
Ah, donc je peux changer ce que Dieu sait.
Oui.
Je peux changer ce que Dieu
sait. Il peut décider, monsieur.
Ça veut dire, en d'autres termes, pour être plus médiatique, ça veut dire que je peux surprendre Dieu.
Non, mais attends, qu'est-ce que tu sais que Dieu ne sait pas que Dieu.
Non, mais attendez, surprendre. Ça veut dire que Dieu dit, celle-là, je ne l'avais pas vue. Je ne l'avais pas vu arriver, celle-là.
Mais non, si on le voit dans notre dimension.
Ah, alors s'il voit tout, il sait tout. S'il sait tout, je ne peux pas le surprendre. Si je ne peux pas le surprendre, ça veut dire que tout est déjà défini.
On travaille en binôme, en vérité.
La contraction est authentique. C'est ça le chidouche, je veux dire, le Razaken. La contraction est authentique. Hachem s'est vraiment caché au point que tu as une vraie autonomie. Elle est authentique, cette autonomie.
Il peut se contracter comme un cœur.
bat, oui, mais qui a le dernier mot ici? Alors, c'est le dernier mot, je déciderai.
Il y a un truc qui va faire une autonomie uniquement dans la pensée.
Ah, Moshi, je peux dire le moment.
Attendez, si, donc dans ce cas-là, je déciderai. C'est comme les gens qui sont au casino. Ils vont au casino, ils croient qu'ils jouent, ils croient qu'ils décident, mais au final, le casino gagne toujours. Donc, t'as rien décidé.
Ça marche pas.
Alors, c'est comme ça avec HM aussi, le casino gagne toujours.
Ça marche.
Oui, toujours, il gagne.
Non.
Il gagne du gras.
Non,
du crédit avec eux.
Non, mais je. Là, tu parles de la contraction. Effectivement.
Vous comprenez la complexité
compris,
de la question
j'ai compris, là.
C'est une question très complexe. Vas-y.
Non,
il est depuis tout à l'heure. Excuse-moi.
Là, je te parle.
Il est poli.
Non, merci. Non, tu parlais de la contraction. On essaye de percevoir un peu ce que tu expliques. La contraction, finalement. L'autonomie qu'on a dans la façon d'agir. Même si Dieu, il sait, effectivement, on n'a pas la même échelle de temps. C'est-à-dire que Dieu, il voit tout. Le passé, le présent, l'avenir, c'est tout. C'est en même temps. Donc ça, c'est
en dehors du temps.
Donc il est observateur de la scène. Après, la scène, elle peut bouger à tous les moments.
Mais moi, j'ai une question claire à poser. Maintenant, moi, dans ma réalité que je vis, est-ce que Dieu sait le choix qui va se présenter devant moi dans 5 minutes, j'aurai un choix, je vais à droite ou à gauche, mitzvah ou avera. Est-ce que Dieu sait le chemin que je vais prendre?
Oui. Alors, la question...
Donc si Dieu sait le chemin que je vais prendre, je suis conditionné par son savoir, par sa connaissance.
Alors, ce n'était pas ma question, mais justement, la question, tu l'as un petit peu effleurée tout à l'heure, tu disais de parler de contraction et par le fait de... Bah, alors, contraction, c'est-à-dire qu'on agit plus ou bien qu'on s'émet en telle contraction qu'on n'a plus d'action sur... c'est en opposition à ce que tu disais, le fait de recréer en
ce que
permanence.
J'entends par contraction.
Alors c'est cette notion de contraction et de recréer.
J'ai compris. En fait, peut-être il faut changer le mot. Au lieu de dire lumière et contraction, il faut dire présence et absence.
Oui.
T'as la lumière. Quand la lumière m'éclaire, donc il y a une présence de la lumière. Quand il y a une contraction, ça veut dire que cette lumière se contracte et donc se cache. Donc elle n'est plus là, donc il y a une absence. Donc peut-être au lieu de dire, mais le terme employé par la Kabbalah, c'est le terme contraction. Mais parce que c'est comme ça que ça se passe physiquement, techniquement c'est comme ça que ça se passe. Mais pour expliquer le concept, ce qui m'intéresse, c'est pas est-ce qu'il s'est contracté ou pas. Ce qui m'intéresse, c'est présence et absence. C'est-à-dire, est-ce que moi maintenant, quand je dois faire un choix, est-ce que dans ce choix, j'ai aucun paramètre qui m'influe?
Mais quand tu disais,
au moment de la décision.
Je comprends, mais quand tu disais par rapport au Gaon de Vilna ou autre qui étaient sur d'autres pensées.
Bien sûr,
C'est qu'on peut penser qu'ils avaient aussi de leur façon de.
Non, mais c'est un très grand débat. Ça veut dire que je t'explique jusqu'où ça allait ce débat.
Voilà.
On peut dire même que c'est un des fondements de la Machloket. C'est que. Mais bon, sur ça, après, les élèves du Gaon de Vilna étaient d'accord avec le Morazaken, parce qu'il y a eu des grandes discussions après. En fait, leur argument était comme ça, c'est que si tu dis que l'homme est autonome, donc quelque part, c'est Avodah Zara. Tu es en train de mettre l'homme au même niveau que Dieu. Voilà. Donc c'est une forme d'hérésie.
Oui, on est plus
donc c'est pour ça qu'on traitait les chassidim d'hérétiques. On dit que votre doctrine est de l'hérésie. C'est de l'hérésie ce que vous racontez. C'est une grande question. C'est une question énorme. Donc il y a des gens qui te disent, moi je préfère ne pas y penser. J'ai pas compris, donc j'y pense pas et c'est fou. Il faut pas avoir peur d'ouvrir. Parce que ton fils se pose la question. Il dit, papa, est-ce que je peux décider ce qui est passé, oui ou non? Il faut un oui ou un non. Je sais pas, c'est une réponse. Mais on préfère avoir une réponse. Et là, c'est quoi la réponse? On va te dire oui, oui à 100% et non à 100%.
Donc c'est pas une réponse.
Oui, non.
Alors oui, oui à 100%. Oui, je suis autonome, 100%. Et pourtant, non à 100%, parce que Dieu décide tout. Mais oui à 100%, c'est moi qui ai décidé.
Ah non, c'est ou non, c'est pas.
Ah.
C'est ou c'est.
Ça peut pas être oui,
on a,
peut pas
donc être, on a ici un paradoxe. Mais déjà, en ce qui me concerne, je dois avoir la émouna profonde et absolue que je peux changer le cours des choses. Hachem a peut-être prévu des choses pour un an, pour deux ans, pour 10 ans. Moi, je peux changer ce qu'Hachem a prévu. Je parle pas du cours de la nature, je parle du cours d'Hachem.
On a cette force aujourd'hui.
Oui.
Il accepte déjà qu'on peut changer.
Mais oui, parce que c'est ça l'accès. Mais oui, parce que
si j'étais pas concret, je pourrais pas le faire.
Parce que sinon, quelle différence entre moi et un animal? Un animal est programmé. Moi aussi, je suis programmé.
Ah oui.
Parce que c'est la même chose.
Oui,
c'est cette contradiction qui permet ça, finalement.
Donc voilà où veut nous donner l'Admorazaken. Là, l'Admorazaken, il veut nous amener pour montrer cette idée de Hachem et Elohim. Que Hachem et Elohim, ça veut dire que comment moi maintenant, c'est ça la force. Parce que normalement, hein, David.
Oui, bien sûr. Oui.
Regardez, normalement.
C'est le problème,
si moi je ne vois pas Hachem, dans ce cas-là, je ne devrais pas prononcer ce nom. Je devrais dire Baruch Atah Elohim. Parce que Elohim, c'est la contraction. Pourquoi toujours quand je parle d'Hachem, je dis Hachem et Elohim? Tu ne vois pas Hachem. Hachem, c'est la lumière. HM, c'est l'énergie qui se développe, mais toi, concrètement, tu la vois pas. Les contractions. Pourquoi chaque fois que tu parles, tu dis HM Elohim, HM Elohim, HM Elohim? Toi, tu vois que les Elohim, donc parle de ce que tu vois. Ça veut dire qu'en vérité, constamment, on vit ces deux aspects, le Hachem et le Elohim. Le Elohim qui te donne une autonomie complète, et le Hachem qui te dit « oui, mais c'est moi le patron ». Et le Elohim qui te redit « oui, mais c'est toi qui décides ». Oui, mais c'est moi le patron. Oui, mais c'est toi qui décides. Oui, mais c'est moi le patron. Eh, vas-y, pour ton ordre. Hachem Elohim, Hachem Elohim, Hachem Elohim. Dans toutes nos prières. Bahouchata, Hachem Elohim, Hachem Elohim.
J'ai jamais mon mot à dire. Parce que si on dit que Akadosh Baruch Hu, il est en dehors du temps, donc ça veut dire le présent, le passé, le futur, il se mélange à ses yeux. Si moi, aujourd'hui, le 4 novembre, je décide de faire une Mitzvah, et qu'au dernier moment, je change d'avis, je fais une Avera. Qu'est-ce qui me dit que lui, il n'a pas prévu...
Il l'avait prévu autrement.
Non, qu'est-ce qui me dit que lui, il n'avait pas prévu que j'allais changer d'avis au dernier moment et que j'allais prendre le virage... Oui,
d'accord, tu bottes en touche, là. Moi, je m'excuse du terme. Mais moi aussi, je me posais la question. S'il savait que je savais... C'est du vice, ça. D'accord. Il savait que je savais... C'est pas un jeu de poker. On va au poker, ici, là.
Non, mais c'est pas une question de poker au poker. Tu me dis, on évoque tous les chemins. Donc, tu as évoqué un chemin avec une possibilité, j'avais un chemin avec une autre possibilité.
Oui, mais c'est...
Elle a autant de possibilités de réussir le premier que le deuxième, si ce n'est que pour appuyer ce que tu dis, c'est marqué deux fois dans la Torah, tu choisis ici, tu reçois, tu choisis là, tu reçois. Donc, ça veut dire que tu es étonnant.
J'ai une question à te poser. Je reprends l'exemple du soleil, parce que c'est l'exemple que le roi David amène. C'est très profond comme exemple. Il a dit que Shemesh Umagen Hashem Elohim. Donc Hashem Elohim, c'est comme le soleil et le voile sur le soleil. On va s'arrêter un peu sur le rayon du soleil. Est-ce qu'un rayon a une autonomie?
Rayon?
Est-ce que le rayon du soleil, le rayonnement du soleil, est-ce qu'il a une autonomie?
Il dépend de sa source.
Est-ce qu'il décide par exemple que maintenant, au lieu d'être blanc, je vais être noir, je vais être rouge, je vais être rouge?
Non. Il a une nature.
Il programme comme ça.
Vous comprenez que là, dans le rayon, on voit clairement qu'il n'a aucune autonomie. Il n'a aucune autonomie. Il dépend à 100% de sa source. Alors peut-être qu'il va oublier qu'il a une source, mais il dépend à 100% de sa source. Moi, je vous pose la question, est-ce que moi qui est un rayon, donc moi qui est un rayonnement d'Akadosh Baruch Hu, chacun de nous qui est un rayonnement d'Akadosh Baruch Hu, est-ce que je peux être autonome?
A priori, pas du tout.
Ah, pourquoi je me sens autonome?
Parce qu'il y a un signe.
Ah oui, mais je comprends.
Mais
comment je peux me sentir autonome?
Un sentiment.
C'est pas possible de sentir autonome.
Est-ce que
je me sens autonome à cause d'un oubli ou à cause que Hachem a donné une vraie autonomie?
Tu vois pas.
Donc c'est totuliste. Je te dis, c'est une absence. Comme j'ai pas l'info, donc je me crois autonome. Voilà. Non? Rassilou te dit non.
Non, dans le choix.
Elle te dit, en plus du fait que tu ne vois pas, Hachem a donné une vraie autonomie. Pourquoi? Parce que la contraction était authentique. C'est pas une illusion. Cette idée va être très très loin. Je peux vous dire, voilà, que l'essentiel de la discussion, on connaît la controverse, mais il y avait d'autres détails, mais l'essentiel de la controverse entre les chassidim et les autres, d'accord, c'était surtout sur ça. Cette idée-là. Jusqu'où Akadosh Baruch Hu est présent et jusqu'où Akadosh Baruch Hu se contracte. Sur ça, l'approche du Gaon de Vilna était beaucoup, beaucoup plus simple. Je n'ai pas envie de dire simpliste parce que c'est le Gaon de Vilna, mais beaucoup plus simple. Il dit, Akadosh Baruch Hu, il est dans un endroit où il rentre, dans un endroit où il ne rentre pas, et Akadosh Baruch Hu, il ne se contracte pas vraiment. Donc ça veut dire, en vérité, c'est le patron. Donc il dit, dans une poubelle, il ne rentre pas vraiment, dans la synagogue, il rentre, et même quand tu crois qu'il se cache, en vérité, il ne se cache pas. Bon, ça veut dire, en vérité, c'est lui le patron, c'est lui le maître à bord. La Chassidut te dit non. Elle te dit, de la même façon que Akadosh Baruch Hu est insondable, ses midot sont insondables. Donc c'est comme ça. Donc j'ai une autonomie. Donc j'ai un libre arbitre. Donc je peux décider. C'est fort, ça, c'est fort. Et des fois, des gens qui pensent être tributaires de leur vie. Ils disent, bon, écoute, c'est comme ça, je suis né dans une famille comme ça, j'ai une femme comme ça, j'ai des enfants comme ça, j'ai une vie comme ça, j'ai un passé comme ça, j'ai un travail comme ça, j'ai une maison comme ça. Je suis comme ça. C'est le chemin qu'Hachem m'a mis. J'ai pas d'autonomie. C'est ce qu'Hachem m'a mis. Je suis comme ça. J'essaye d'évoluer un petit peu dans ce qu'Hachem m'a donné. On te dit, tu as une autonomie complète. Après, Hachem reste le patron, il peut décider de supprimer. Bon, ça, c'est son problème. Mais, au Bezrat Hachem jusqu'à 120 ans, on a une autonomie. J'ai une autonomie. Et ça, c'est quelque chose qu'Hachem a donné à personne d'autre. Il a donné ça qu'à l'être humain. D'ailleurs, on a vu. Et c'est la question de M. Benita, c'est quand on a fait le cours au Shabbat. Est-ce que Adam avait le libre arbitre de ne pas fauter, de ne pas prendre l'arbre de la connaissance?
Bien sûr. C'est sur le principe-là.
Oui, mais Dieu a... Hein, Michel, c'était votre question aussi. Ah, Michel, il
non, je pensais à autre chose.
Ah, je vois.
Là, je pensais de ma journée d'aujourd'hui, tout ce que Dieu m'a envoyé comme client.
Ah oui.
Avec des têtes différentes. Ouais. Jamais les mêmes personnes. C'est un truc de ouf, quoi. J'ai fait 10 heures aujourd'hui d'affilée. J'ai pas vu une personne identique.
Alors, quelle autonomie vous aviez?
Je me dis, bon, mais il m'a envoyé sa source.
Donc là, aujourd'hui, vous aviez aucune autonomie. Vous avez senti Michel Lacoste, il décide rien.
Je décide de rien, c'est lui qui va tout envoyer.
Il va tout envoyer, quoi. Moi, j'étais là, moi, j'étais un distributeur. Ils sont venus,
parce qu'on parlait des individus, tu vois jamais les mêmes personnes, quoi.
Donc vous avez été un distributeur.
En tout cas, j'étais là.
Quelle vente vous avez fait?
Divers et variés.
Il y a un Américain, il m'a dit ça. Il m'a dit, imagine-toi que tu as une épicerie. Et tu as quelqu'un qui rentre au magasin et qui veut acheter. Il dit, bonjour, je voudrais acheter une canette de Coca. Non. Combien ça coûte une canette?
1 euro, 50 euros.
1 dollar, 1 euro. Et toi, tu lui vends la canette. Tu n'as pas fait une vente. Parce qu'il est venu pour acheter une canette. Il a acheté la canette et un distributeur veut lui donner. Imagine-toi que ce monsieur vient, il dit, bonjour, je voudrais une canette. Et toi, tu lui dis, vous savez, je peux vous vendre un pack si vous voulez. Ah ouais, je vous vends une bouteille. Là, tu as fait une vente.
Là, c'est une vente.
Tu augmentes le panier, c'est un débiteur.
Ça veut dire que le client, il est venu pour acheter quelque chose. Mais toi, tu n'as pas vendu. Lui, il a acheté, mais toi, tu n'as rien vendu. Parce que un distributeur aurait pu faire ça. On aurait pu le faire sur Internet. Où est la vente? C'est cette marge de Rochma. Mais ça, c'est qui le décide? C'est HM ou vous? On revient à la même question. C'est toujours la même question. Qu'est-ce que je décide ici? Qu'est-ce que je décide?
HM m'a donné l'autonomie de décider et de lui vendre le pack au lieu de s'asseoir une bouteille.
Donc il m'a donné l'autonomie. Donc je suis autonome.
Oui.
Donc je suis autonome. Donc je peux décider. Donc j'ai le dernier mot ici.
Oui.
Ben c'est très dur
ce qu'on voit. Moi je vois pas, je fais ce que je veux, je vais où je veux.
Est-ce que vous savez pourquoi Kadosh Baruch Hu ne voulait pas que Adam mange le fruit de la connaissance?
Ah, bonne question.
C'est écrit dans le Chumash, même pas dans Rashi. Il a dit, vous n'allez pas manger le fruit de la connaissance. C'est même le serpent qui a dit ça. Il a dit, parce que Dieu, il sait que le jour où vous allez manger le fruit de la connaissance, vous allez, vi'yitem ke Elohim yod'ei tov vara. Vous serez comme Dieu, ouais. Connaissent le bien et le mal. Vous serez comme Dieu.
Et où est le mal, là? Au contraire, c'est bien.
Bien.
C'est bien. Si on est comme Dieu, on connaît.
Donc ça veut dire que, en d'autres termes, ce que voulait dire le serpent, c'est que si vous allez prendre l'arbre de la connaissance, vous allez devenir autonome. Tant que vous avez pris l'arbre de la connaissance, vous n'êtes pas autonome, parce que vous n'avez aucun choix. D'emblée, il y a un seul choix qui est devant vous, donc il n'y a pas de choix. Donc vous n'êtes pas autonome. Et pourquoi Hachem ne veut pas? Parce que Hachem ne veut pas, il sait que quand vous allez manger le fruit de la connaissance, vous allez être comme Dieu, vous allez être vous aussi autonome. Donc vous voyez que ce dilemme, on le retrouve depuis la création du monde.
Oui, mais je ne vois pas où il est le mal.
La première faute tournée autour de ça.
C'était dans le dessin.
La première faute tournée autour de ça, est-ce que l'homme a une autonomie ou pas?
D'abord, il n'avait même pas à les condamner parce qu'il n'avait pas la notion du bien et du mal.
Alors, dans ce cas-là, pourquoi vous le punissez? Alors, monsieur Benita, pourquoi vous punissez Adam alors? S'il n'était pas maître de son choix à 100%, tu veux le punir?
S'il n'avait pas d'autonomie au départ.
Donc c'est un jeu tout ça pour vous.
C'est vrai
vous croyez dans Matrix, vous.
S'il n'a pas d'autonomie, quelle autonomie il a de...
Hein? Moi, je vous ai dit une fois qu'il a bien fait de manger. Le fruit de la connaissance.
Pourquoi?
Le Etzadat.
Pourquoi il a bien fait?
Parce que s'il n'avait pas consommé.
Oui, exactement. Fortnite. Les jeunes, oui.
C'est Fortnite.
Ah, parce que Monsieur Benita, dans la nouvelle génération, les jeunes, il y a un jeu qui s'appelle Fortnite.
Ah bon.
Ouais. Je joue pas à ça,
c'est
mais
quoi, ça
moi ça me dépasse là. Hein. Là, je.
Là.
Au-delà. Là, je suis pas autonome là-dedans.
Au-delà du problème financier, d'accord. En fait, c'est quoi la chorma de celui qui a créé ce jeu, qui est une chorma débile?
C'est qu'en fait,
les jeunes, ils vivent dans leur monde. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il crée tout un monde virtuel. Tu peux rester devant la console, mais tu es dans un monde qui marche. Avec des transactions, des conquêtes, des chutes, etc. C'est un vrai monde. Avec des pulsions négatives. Les mêmes pulsions négatives qu'on retrouve encore pire encore. Des pulsions négatives, des pulsions positives, plus positives, négatives, enfin bon, etc.
Ah ouais.
Mais on vit dans une bulle. C'est la tendance du monde aujourd'hui. Facebook, les amis, etc. C'est une grosse bulle. Mmh. Ah, c'est juste, donc c'est un peu ça la question. C'est-à-dire à la fin, quand il y a une panne de courant, Regardez le visage d'un jeune, il est dans son monde, et à un moment, pac, une panne de courant, ou une prise qui a été arrachée. D'accord?
Ah non, mais
Et l'enfant, tout d'un coup, regarde l'écran noir.
Tu veux savoir si les enfants sont là, tu coupes la wifi.
Ah oui.
Ça. Tu coupes la wifi, qu'est-ce qui se passe? C'est vraiment
bizarre. Ils ont la 4G.
C'est fini, ça, ils ont la 4G. Et s'ils prennent pas ta wifi, ils vont prendre la wifi du voisin. Et ils prendront la wifi du satellite.
Ils sont autonomes.
Exactement. Bon, alors,
est-ce qu'on. Ils sont autonomes. Si t'enlèves la wifi.
Ils ont le fil du voisin.
Là, ils font des œufs, c'est marqué des œufs sur le pouce. C'est-à-dire que le jeu qui se joue avec le pouce.
Ah, c'est même pas de console.
Ah, mais ça devient dangereux.
Sur
c'est
des choses. Franchement,
il y a
des petits carrés, mais ce jeu-là, c'est grave.
C'est
très grave.
Non, mais c'est pas ça. C'est débordement.
Mais c'est virtuel. Au moins, tu sais que c'est virtuel.
Non, mais c'est grave.
Ça veut dire aujourd'hui, t'as déjà avec des capteurs. Tu mets des capteurs, t'as même pas besoin d'avoir une console dans la main. D'accord? Tu bouges, etc. Tu sautes et t'es dans un monde. Alors après, quand t'as un petit écran, tu vois pas grand chose. Mais il y en a qui ont des écrans énormes avec les lunettes. Et tu le vois, le gars, il bouge, mais il a même pas de console dans la main. Il a rien dans la main, il a rien du tout. Il a rien, il a pas de manette. Il a rien, il est là, il saute, il est dans son monde. Il touche des murs, il touche des trucs, hein. Non, parce que justement, dans la Gemara, c'est pas du virtuel. Non, c'est pas du virtuel, c'est du réel. Pas du tout. C'est une immersion authentique.
Authentique pour toi.
Non, c'est authentique. La preuve que c'est authentique, c'est qu'elle a 2000 ans, elle est toujours là. Exactement. Alors que dans 2000 ans, ils joueront pas à Fortnite.
C'est sûr.
Est-ce qu'on peut faire un service dans le bêta-midage en virtuel?
Ouais. C'est
quoi ça?
Ils ont fait un... L'année dernière, à New York, ils ont fait un truc avec ça, avec les lunettes 3D. Aujourd'hui, on peut mettre 3D même sur les téléphones. Et sur les téléphones. Ils ont fait une application. Je sais pas, une application que je n'ai pas. Non, Betamigdash. Mais attendez, c'est très intéressant parce que aujourd'hui, il y a des. Bon, je ne veux pas faire un cours informatique, mais aujourd'hui, vous avez des lunettes très poussées avec des capteurs partout. C'est-à-dire que juste quand ton regard, il tourne à droite, il voit que tu tournes à droite et donc du coup, l'image tourne dans tes yeux, c'est une lunette. Et ils ont fait ça avec le Betamigdash.
La réalité
augmentée. Extraordinaire. Extraordinaire. Virtuelle, ouais. Extraordinaire. Ils ont fait ça et c'est intéressant parce que ils ont mis ça. J'ai eu sur des rabbanim. Vous pourrez leur montrer le tamigdash. Et tu vois des rabbanim qui sont là, qui sont 60, 70 ans, je sais pas quel âge ils ont, d'accord? Et tu les vois mettre les lunettes comme ça, et tu les vois comme ça. Ils sont, complète. Et à un moment ils se lèvent. Et à un moment, parce que t'es dedans. Mon âge, t'es dedans. T'es là, tu touches. Et après, t'as les lunettes.
T'as déjà essayé des
lunettes. Ah, tu viens. Alors, ça, c'est la grande question qu'on se pose. C'est est-ce qu'il y a un moment dans ce monde, c'est ça la grande question. Est-ce qu'il y a un moment dans ce monde.
Sécurité automobile avec ces lunettes-là.
Ah, on reproduit tout. Tout. Maintenant, la question est comme ça. Est-ce qu'il y a un moment dans ce monde dans lequel on enlève les lunettes? Et on voit qu'en vérité, tout ce qu'on croyait être une autonomie, c'était du bluff.
Virtuel.
Matrix.
Ça, c'est la question.
Rapidement remettre les lunettes.
En fait. This is the question. Est-ce que ça veut dire, moi, j'arrive pas à enlever les lunettes. Mais est-ce qu'à un moment, je pourrais enlever les lunettes, on va dire virtuellement, enfin, théoriquement, est-ce que je pourrais enlever les lunettes et je verrais que mes convictions étaient fausses. Que ce que je croyais maîtriser, je ne maîtrisais pas, etc. C'est ça le grand débat. La chassidoute te dit. Ce que tu voyais dans les lunettes, c'était vrai. C'est pas faux.
Et sans lunettes, c'est vrai ou c'est pas vrai?
Sans lunettes, tu vois pas.
Non, il est fou, Flelou, il est fou.
Bah, je vois quand même quelque chose, même sans lunettes.
Non, les lunettes que tu as, c'est pas du virtuel. Ce que tu vis dans ce monde, c'est pas du virtuel. C'est très fort, ça, comme idée. Le monde que tu vois devant toi, c'est authentique. Pourquoi? Parce que c'est écrit dans la Torah, Bereshit Bara Elokim. Mon seul repère, c'est la Torah. Et la Torah, elle me dit qu'au commencement, Dieu créa le monde, le ciel et la terre. Donc, c'est vrai que le ciel et la terre sont authentiques. Parce que si la Torah me le dit, c'est que c'est vrai.
Ouais.
C'est tout.
Bah, il dit aussi que...
Il y a des gens qui se posent la question. Il y a des gens qui se posent la question, est-ce que Dieu est authentique? Ça, c'est les hérétiques. Mais nous, la question qu'on devrait se poser, c'est pas est-ce que Dieu est hérétique, c'est est-ce que moi, je suis authentique? Bon, est-ce que c'est pas virtuel, tout ça? Quoi, la réponse? Ouais. C'est oui, c'est authentique. Et jusqu'où je décide? Ah, Dassof. Jusqu'au bout.
Ouais.
Jusqu'au bout de ma décision. Jusqu'au bout de mon champ de décision.
Ben, forcément, donc, je suis autant.
D'accord.
N'est pas une pensée de...
Non, je ne décide pas tout. C'est-à-dire, je ne décide pas, par exemple, dans quel environnement je vais naître, où je vais évoluer. Ça, je ne peux pas décider. Mais dans l'environnement dans lequel j'évolue, oui, je décide. C'est moi qui décide. Pourquoi? Parce que le chesed d'Hachem est authentique, le chesed qui m'a créé est authentique, et la contraction qui fait que Dieu se cache et que j'ai une autonomie est aussi authentique. Les deux sont authentiques. Très fort comme il dit ça. C'est là que tu comprends quand tu expliques ça par même tu peux expliquer ça même à un jeune, un bar mitzvah. Il dit bar mitzvah, ça change quoi? Alors si je bar mitzvah, tu lui expliques cette idée. Tu lui dis, tu imagines qu'à partir de maintenant, c'est plus Dieu qui décide, c'est toi qui décides. C'est énorme comme idée.
Pareil pour pas partir de la Barbuda. Hein,
et c'est en même temps une lourde responsabilité.
Non,
sur le temps. Hein.
Avant la, non.
Pourquoi
avant la, avant la Bar Mitzvah, il a pas encore de autonomie. La vraie autonomie.
Ça veut dire quoi que la Tzimtzoum et la contraction?
Oui, ça veut,
les
oui, oui, oui. Ça veut dire que le libre arbitre avant la Bar Mitzvah est limité.
Ah, c'est pas libre arbitre, t'as dit la c'est contraction.
Ça, mais c'est ça. Le libre arbitre est conditionné par la contraction. C'est-à-dire pour que j'ai le libre arbitre, il faut qu'Hachem se cache.
Mais je comprends pas la notion par rapport au.
Ça veut dire comme ça. Encore une fois, le mot qu'on doit utiliser, c'est pas contraction, c'est absence. Présence et absence. Ouais. Jusqu'à la Bar Mitzvah, il y a une présence constante d'Hachem qui est là, qui me guide. Donc je décide pas grand chose. Alors j'ai la Bar Mitzvah, Hachem me dit maintenant je me retire. C'est toi qui décides. En fait, c'est-à-dire que les choix que tu vas faire, c'est pas moi qui te pousse, c'est toi qui les fais. Mm-hmm. C'est pour ça que tu es responsable à 100%. 100%, c'est toi qui as décidé le choix. Énorme comme idée, ça.
Oui, mais est-ce que le contraire est
le rugby donné ce machal souvent, c'est comme dans un match de foot. Dans un match de foot, de rugby ou de baseball, etc. D'accord ? Tu as ceux qui sont sur le. Sur le. Non, t'as ceux qui sont sur les gradins et t'as ceux qui sont sur le terrain.
Ah oui, c'est quelque chose que je garde.
Mais non, celui qui est sur le gradin, il peut essayer de s'imaginer que peut-être ça va jouer comme ça, qu'il y a la tendance du jeu, etc. Mais celui qui joue, il fait le jeu. Tu peux avoir 4-0 et à la fin du match, t'as 8-4.
Mais tu vois, en France, il y a 60 millions de sélectionneurs. C'est ça le problème. Tout le monde a
son. Et qui décide? Qui décide si on va passer, qui décide si on aura 4-0 ou si on, et que de 4-0 en 10 minutes, on va passer à 8-4? D'accord? C'est pas Mbappé qui décide. C'est le joueur qui décide. Si t'as décidé, tu peux.
C'est
très fort comme idée. Moi, je vous dis la vérité, ça c'est une idée qui me fascine, ça.
Mbappé, il décide de marquer 4 buts, par exemple.
Mais après, tu me dis, oui, mais Mbappé, il est conditionné par la force physique qu'Hachem lui a donnée.
C'est
t'as beau décider, tu décides. Voilà. Tu peux pas décider de sauter au plafond.
Non, mais c'est infinissable. Attends, deux minutes. Mbappé, voilà.
Mbappé,
il marque. Bon. Il a le ballon, il marque.
Il marque, voilà.
Ok, c'est comme ça.
C'est comme ça.
Un jour, qu'à Dieu ne plaise, il a le ballon, il marque pas. À chaque fois qu'il veut marquer, au lieu de rentrer dans le but, elle rentre pas dans le but, elle rentre juste à côté, mais un millimètre à côté.
Mais la question est comme ça, c'est est-ce qu'il avait le libre arbitre de marquer ou pas?
Ah, il a marqué en tout cas.
Oui.
À chaque fois, il a marqué. Il a voulu marquer.
Et est-ce qu'un autre joueur, il avait aussi le libre arbitre de marquer ou pas? Oui. Il avait le libre arbitre. Maintenant, il est conditionné par d'autres problèmes. C'est que lui, il va tirer, mais il y aura un bon défenseur, il y aura un bon attaquant, il y aura un bon goal. Ok, c'est un autre problème, ça.
Il peut être blessé,
exactement. Il peut glisser.
Voilà.
Mais la décision de l'être humain, la volonté, c'est une vraie volonté, authentique. C'est une décision. Et ce ratson, cette décision, je vous dis la vérité, c'est la seule chose qui nous appartient. Parce que tout le reste, mon corps ne m'appartient pas. Ma vie ne m'appartient pas. Il n'y a rien qui m'appartient. Je décide rien ici. La seule chose qui m'appartient, c'est ce ratson, cette volonté. Que là, j'ai la volonté de. Maintenant, est-ce que je vais réussir ou pas? Ça, j'en sais rien si je vais réussir. Mais cette volonté, cette décision, ça m'appartient.
Oui, mais cette volonté,
et je ne jugeais que sur ça.
Elle a bien une source.
Et cette volonté, elle est autonome.
Elle a une source, mais elle est autonome. Elle n'est pas autonome sur le résultat. Oui, mais elle se développe.
Elle n'est pas autonome sur le résultat.
À mes facultés.
Très bien.
À mon vœu. Elle n'est pas autonome complètement.
Le résultat, c'est là. Donc, ça veut dire que tout ce qu'on te demande, c'est d'exercer ta volonté. Et donc, que tu
as. Ce qu'on te demande, c'est d'avoir une bonne volonté.
Oui, mais la volonté est influencée par.
Hachem ne te juge pas sur le résultat. Hachem, il te juge sur la volonté.
Oui, mais la volonté, c'est Dieu qui me l'a donné. C'est la capacité de Dieu.
Oui, mais Hachem, il regarde la kavana que tu avais, l'intention que tu avais.
La volonté dans
Pourquoi? Parce que la réalisation, ça ne dépend pas de toi.
Voilà.
Mais la volonté, ça dépend de toi. Et tu peux avoir une volonté complètement tordue, même si tu n'es pas d'accord. Tu peux, c'est possible.
Comme le mal, la volonté, c'est bien comme le mal dans la volonté.
Oui,
bien sûr, mais évidemment, si on n'a pas du arbitre. Juste, c'est l'heure tourne, c'est bientôt l'heure. Donc, je vais juste terminer le chapitre à l'oral, parce qu'on n'aura pas le temps de terminer. Bon, après, à la fin, il y aura des notions très compliquées. Donc, je vais juste expliquer à l'oral ce qu'il dit ici. Donc, il dit, en vérité, Béhémet, en vérité. D'accord, Béhémet. Un être existant n'a pas d'autonomie à part entière. En vérité, on est comme le rayon du soleil. Le rayon du soleil qui n'est pas autonome. Ça, c'est Béhémet. Mais ça, il dit à l'Admor HaZaken, un cerveau humain n'est pas capable de comprendre comment d'un côté, je peux être généré constamment d'une source, et d'un autre côté, je suis autonome. Parce que dans le soleil, vous voyez bien, dans le soleil, on voit de deux choses l'une. Ou il est autonome, et c'est un soleil lui-même. Ou il n'est pas autonome, et ben dans ce, ou il n'est pas autonome, et c'est un rayonnement du soleil, et c'est terminé. Nigmar. Mais là, c'est très compliqué ce qu'on est en train de chercher ici. On est en train de te dire que nous sommes un rayonnement d'HM, mais c'est un rayonnement qui devient autonome comme un soleil. Et qui décide, j'éclaire, j'éclaire pas, je vais à droite, je vais à gauche. Mais c'est en même temps un rayonnement. Dis la Morazaken, ça, le cerveau même ne peut pas comprendre. Pourquoi il ne peut pas comprendre? Parce que de la même façon, tu ne peux pas comprendre HM, tu ne peux pas comprendre son expression. Et donc, tu ne peux pas comprendre son expression, tu ne peux pas comprendre ni comment il éclaire, et ni comment il se contracte. Et donc, tu ne peux comprendre ni comment toi tu perçois la lumière, ni comment toi tu perçois la contraction. Mais ça n'empêche que ce que je te dis, c'est authentique. Ce que je te dis, c'est authentique à 100%. Que d'un côté, Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui génère tout comme le rayon. Donc, le rayon du soleil ne peut pas être autonome du soleil, c'est pas possible, c'est le rayon. Mais d'un autre côté en même temps, ben là, le rayon du soleil, pour en prendre l'exemple, pour paraphraser, pour en prendre cet exemple-là, eh ben, il a un sentiment d'autonomie complète. Et c'est pas seulement un ressenti, c'est une vraie autonomie. Il peut décider de briller plus, de briller moins, d'aller à droite, d'aller à gauche, il fait ce qu'il veut. Et pourtant, il est constamment généré par le soleil. Dilad Morazaken, Enbi Cholet, Shum Sechel Nivra. Aucun cerveau créé peut comprendre ça. Comment c'est possible? Mais c'est la réalité. C'est important de le comprendre, ça. Comment d'un côté, j'ai une émouna que c'est Dieu qui gère tout, et d'un autre côté, et c'est Dieu qui génère tout à chaque seconde, c'est pas seulement qui gère tout, c'est qui génère tout, et d'un autre côté, j'ai l'émouna que je peux décider. C'est pas parce que je comprends pas que c'est pas la réalité. Et c'est important de le savoir. Que la réalité est comme ça. Que Dieu génère tout, et c'est moi qui décide. D'accord?
Donc il y aurait une autre source qu'à Kadosh Baruch Hu, alors?
Non! Justement, il n'y a pas d'autre source. C'est ça le paradoxe. Il n'y a pas d'autre source qu'à Kadosh Baruch Hu, mais j'ai une autonomie. Donc je peux décider. C'est-à-dire que la prochaine fois que le Yitzhar, il vous propose un Avera, ou la prochaine fois que le Yitzhar Tov vous propose une mitzvah, dites-vous, c'est pas le Yitzhar Tov qui m'a proposé, c'est pas un préposé d'Hachem, c'est pas un ange qui m'a proposé une Avera, c'est pas un ange qui m'a proposé une mitzvah. Il y a peut-être des éléments extérieurs qui vont me proposer des choses, mais finalement, celui qui aura le dernier mot, c'est qui? C'est moi. Avant la bar mitzvah, non. D'ailleurs, intéressant, petite parenthèse. Rabbi dit que, de la même façon que, pour un converti, le Rambam explique que quand un converti se convertit, on lui donne une certaine marge, un certain délai, parce que même s'il a appris toute la halakhot, le temps qu'il fasse toutes les mitzvot, ça prend du temps. Donc il y a une marge, c'est normal qu'on lui donne une marge.
13 ans.
De la même façon, exactement. Ouais. De la même façon. Quand un jeune homme qui a 13 ans, tout d'un coup tu dis, ah, t'es responsable. Il y a une marge. Combien de temps dure cette marge? Je ne sais pas, elle ne donne pas de durée. Elle peut durer 1 an, elle peut durer 2 mois, elle peut durer 10 ans, elle peut durer 20 ans. Ça veut dire qu'il y a un rythme de la personne. Ça veut dire que même si à 13 ans tu dis, tu es responsable. Mais d'accord, je suis responsable, je suis autonome, mais il faut que je prenne le temps de m'habituer à cette autonomie. Alors je me dis, ok, pas de problème, t'inquiète pas, on te donne le temps. Donc si toi, pour l'instant, l'autonomie ressentie, tu la ressens à 20%, alors on te donne 20%, on te donne juste 20%. Mm-hmm. Et bien, Mette, la Gemara a dit que jusqu'à l'âge de 20 ans, on n'est pas punissable. Parce qu'on considère que même si tu as un libre arbitre, tu n'es pas encore vraiment habitué, tu n'as pas encore les outils pour comprendre ce que ça veut dire être autonome. Tu es autonome. On t'a mis devant un volant, t'as dit tu tournes à droite, tu tournes à gauche. Mais t'as pas encore compris les enjeux, donc tu t'es là devant un volant, tu joues, t'appuies sur les boutons. En fait. Exactement. On considère que 20 ans c'est une maturité, mais même avec ça, le rabbi dit que même avec ça, la Torah accepte qu'il y a des fois un délai.
Des fois, et c'est important ça. Un peu attardé, quoi.
Oui. Il faut que les gens ne comprennent pas, ils te disent, tu dis, je comprends pas, j'explique.
C'est à la rigueur.
J'explique à mon fils, il a 13 ans, il a 15 ans, il a 20 ans, pourquoi il a pas compris? Comment il a pas compris? Bon, aujourd'hui, en vérité, l'adolescence, les crises d'adolescence, ça dure jusqu'à 30 ans aujourd'hui.
Oui, c'est ça, ça nous arrange un peu.
C'est très long aujourd'hui, c'est très long.
Parfois plus.
C'est très long. C'est très long. D'accord.
Il n'y a qu'à voir les grands qui jouent encore aux jeux vidéo.
Comme il disait, le Rav Ben Tchetrit, dit comme ça. Tu sais. Il disait, il y a deux grands, il faut modifier les âges. Mais il disait, il y a deux grandes crises chez l'homme. Il y a 14-18 et 39-45. En vérité, aujourd'hui, le 18, c'est 18 plus. C'est.
Bien sûr.
18 plus, c'est vrai, c'est une folie. Alors, il faut donner le temps. Mais d'un autre côté. La crise de la quarantaine, ils appellent ça. Ouais. Mais bon, je sais pas si ça existe, c'est fou. Bon, certainement.
Oui. T'es pas encore arrivé, c'est
non, je crois quand même.
T'es pas encore arrivé.
Mais d'un autre côté, ce que je veux dire par là, c'est que on doit avoir cette compréhension que le reset d'Hachem est vrai. Donc la lumière d'Hachem, la présence d'Hachem est authentique à 100% dans chaque aspect de mon être. Et d'un autre côté, l'absence d'Hachem est aussi authentique, au point que j'ai une autonomie. Et les deux sont vrais. Dans ma volonté. Et les deux sont vrais. Les deux sont vrais.
Alors on devient plus, en quelque sorte, oui. Une chose et son contraire.
Oui, bien sûr. Oui, vous avez raison.
C'est le paradoxe.
Voilà, aujourd'hui, vous pouvez rentrer chez vous, M. Benita, et dire à madame, aujourd'hui, j'ai appris une chose et son contraire. Ouais. Pas de problème. Vous aurez tout compris le cours.
Tu fais la vaisselle et la vaisselle.
Voilà.
Tu fais la vaisselle et tu ranges la vaisselle.
Voilà.
Ah, on a vedette.
Non, non,
bon, après, il rentre dans les lettres, etc. Mais ça, on, si on a le temps, on est sur la semaine prochaine.
Oui, non.
Ça permis de.
Oui, oui, à vedette. Qu'est-ce que je